France Culture.
Pascaline Lepelletier, bonjour.
Bonjour.
C'est notre troisième épisode d'une série qui en compte cinq, je le rappelle. Épisode 3, petite philosophie du goût, parce qu'on vous a laissé à la fin de l'épisode 2 sur votre stage chez un traiteur de luxe à Paris. On est en 2004. Et en août 2004, vous avez connu une épiphanie.
Oui, bah j'étais à Paris, je finissais mon stage de DESS pour avoir un diplôme dans l'hôtellerie-restauration. Quand j'avais compris en fait que c'était vraiment quelque chose de très fort pour moi, j'avais fait quelques stages chez des traiteurs qui avaient été incroyables, j'avais découvert le monde de la table chez les traiteurs dans des petits boulots. J'avais dit à mes parents, je veux faire la restauration.
C'était pas simple hein, parce que dans les lycées hôteliers, on vous refusait en disant que vous étiez trop diplômé.
Vous savez, avec vos diplômes, c'est un petit peu une voie de garage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que la restauration est un peu une voie de garage. Malgré les émissions de télé aujourd'hui, on voit beaucoup d'autres choses sur les chefs et tout. Pendant très longtemps, on disait, si vous êtes en lycée hôtelier, c'est que vous pouvez rien faire de ce que tout à fait faux. Et donc, oui, les lycées hôteliers m'ont dit, ne venez surtout pas, ça ne fait aucun sens. Et donc, je suis retournée à l'université où, en Angers, il y avait une fac en hôtellerie-restauration. Ils m'ont acceptée. Et faisant partie du programme, en fait, il fallait faire un stage de 9 mois. Et j'ai fait ça chez Potel et Chabot parce que j'avais trouvé le traiteur incroyable. Je trouvais que c'était exceptionnel de créer des événements autour de la nourriture dans des cadres incroyables. Cette création d'une expérience, en fait, autour de la nourriture. Et donc, je me suis retrouvée chez Potel et Chabot et j'étais au service des maîtres d'hôtel. Et je voulais être en cave. J'avais commencé déjà lors des cours à m'intéresser au vin à Angers. Mais en fait, on ne prenait pas de filles à l'époque chez Potel et Chabot en cave. Donc, je me suis retrouvée au service des maîtres d'hôtel à faire les plannings. Et c'était en toute fin de stage. J'allais peut-être partir et le premier maître d'hôtel, qui s'appelait Christophe Latapie, savait que je m'intéressais beaucoup au vin. Il savait que j'allais partir. Et donc, il arrive un vendredi, milieu d'après-midi. Il venait de faire le repas de test pour le mariage de la fille de M. Arnaud, qui allait se marier à Bordeaux. Potel et Chabot allaient faire le déjeuner et le dîner. Et donc, il fallait tester en fait, les plats avec les vins servis pour s'assurer que les accords marcheraient. Et le déjeuner test se faisait à Paris. Moi, j'étais au bureau. Et Christophe arrive et il frappe à la porte, je le vois, je le salue, il avait été vraiment exceptionnel avec moi tout le long de mon stage. Je lui dis « Pascaline, il faut que tu goûtes ça ». Et je vois une bouteille, je n'avais jamais vu une bouteille comme ça, en verre bleu, avec encore des bulles, l'étiquette d'origine, IKEM 1937. Il me dit ça, écoute, je te l'ai ramené, c'était le vin du dessert qu'on va faire pour le mariage, mais je me suis dit qu'il fallait que tu goûtes.
Et IKEM 1937, vous savez ce que ça veut dire à ce moment-là, vous ?
Pas
ça
vraiment.
Ça vous parle ?
Non, pas vraiment, un petit peu, parce que j'ai commencé déjà à lire un peu sur le vin, mais j'étais encore assez novice. Alors évidemment, j'avais entendu parler d'IKEM, qui est ce vin mythique, extraordinaire, liquoreux de la région bordelaise dans le Sauternais, un des plus grands vins du monde. C'est un vin de sucre, c'est un vin liquoreux qui est fait à partir de pourriture noble, donc de champignons qui viennent attaquer le raisin et qui donnent une concentration incroyable en sucre. Et c'est un vin qui traverse les âges. Et là, c'était 1937, un des plus grands millésimes, en bouteille d'origine du château.
J'ai regardé quand même sur Internet, c'est environ 3000 euros la bouteille, pour donner un ordre
oui,
de
bah oui,
grandeur.
Oui, et les prix augmentent, parce qu'il y en a de moins en moins, évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Bon, c'était un truc exceptionnel.
Ah, c'est un truc exceptionnel. Je savais que c'était exceptionnel, mais voilà, c'était ma première fois. Et il me dit, Pascaline, il faut que tu goûtes ça. Donc il avait vraiment traversé Paris pour me la déposer le vendredi après-midi. On se retrouve au bureau. On avait des petites tasses en plastique, de la machine à café, il n'y avait pas de verre à vin, on était dans un bureau de planification. Et là, bon, avec l'équipe, on goûte. Et je me souviens, je me vois au bureau, je vois la fenêtre et je goûte et je fais. Et là, littéralement, le temps s'arrête. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas combien d'instants, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai une émotion incroyable, j'ai un plaisir incroyable, je peux quasiment me projeter dans des sons, j'ai presque une image de ce qu'a dû être les vendanges à ce moment-là. Et là, vraiment, littéralement, le temps s'est arrêté. Et je pense que tout le monde a vraiment apprécié autour de moi, j'ai vu les réactions, mais je crois que vraiment, moi, j'ai été frappée par la foudre à ce moment-là. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma vie. Il faut que je goûte des vins comme ça. Et je savais déjà que j'étais intéressée par le vin. Il y avait tous les cours que je pouvais prendre, en fait, à l'université, au niveau de la sommellerie et de l'œnologie. On avait les deux. Je commençais à les prendre. J'avais commencé à passer des week-ends. On était à Angers, donc je commençais à traîner dans la vigne, à aller voir les vignerons. Je rencontre un caviste du côté de chez mes parents qui commence à comprendre et qui me donne 2-3 bouteilles. Donc, subitement, je me mets à déguster. Et en plus, j'apprends à déguster à l'université. On m'explique comment goûter le vin. Donc, subitement, il y a cette sensation que j'avais eue dans cette cave quelques années auparavant, ça se décuple. Et là, ce vin, littéralement, je m'arrête.
Oui, et là, vous faites même un parallèle entre le concept de durée dans l'œuvre de Bergson, et là, je rappelle que vous avez fait un mémoire de maîtrise sur Bergson, et la dégustation de ce vin, c'est-à-dire 30 secondes de dégustation qui ont duré une éternité.
Oui, bah, ce qui se passe aussi absolument à ce moment-là, c'est que j'avais donc étudié Henri Bergson, un philosophe français vraiment fantastique, et il fait une distinction entre le temps et la durée, et le temps mathématique, le temps chronométré, le 1 plus 1 plus 1 plus 1 que vous avez sur votre montre, par exemple, et la durée. Et la durée, c'est cet étalement qualitatif de l'instant. Et je l'avais étudié, j'avais écrit, j'avais fait des dissertations, j'en ai parlé dans ma truc, dans mon morceau de langage, mais en fait... Je l'avais vécu un peu pour essayer de le comprendre, mais je ne l'avais vraiment jamais vécu. Et là, je me souviens effectivement de me dire, mais en fait, ça c'est la durée bergsonienne en sortant du truc. Et là, subitement, les deux mondes se rejoignent. Et Christophe, très gentiment, le reste du bureau me dit, Pascaline, tu prends le reste de la bouteille. Le reste de la bouteille, je suis repartie dans mon train, j'étais encore à Angers où je faisais mes études avec ma bouteille d'Ikem dans mon sac à dos. Et je me dis, il faut que je la partage. Donc, je la partage ce soir-là avec la famille, avec ma partenaire de l'époque. Et le lendemain, je me dis, il faut que j'aille faire goûter à ce caviste qui, depuis maintenant quelques mois, me fournit des bouteilles qui me plaisent beaucoup et qui m'interrogent. Et il commence à me reconnaître et il me fait un peu avancer dans ma dégustation. Il s'appelle Patrick Rigaud. Et donc, le lendemain matin, je dis, Patrick, est-ce que tu es à la cave? J'ai un truc à faire goûter. Est-ce que t'es là? Il me dit, oui, je suis là. Et j'arrive avec ma bouteille d'Ikem 37, il me regarde avec des yeux, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Je dis, je lui explique un peu, je dis, on le goûte ensemble. Et je dis, Patrick, c'est le vin, quoi. C'est le vin. J'allais finir mon DESS, j'allais sans doute prendre un poste à responsabilité de management dans la restauration. Et Patrick, à l'époque, il était, c'était aussi l'enseignant à la Chambre de commerce d'Angers en mention complémentaire sommellerie. Et il me dit, écoute, t'as quel âge? J'ai 24 ans, 9 mois. Il fait, écoute, t'as jusqu'à 25 ans, on peut essayer de te faire entrer en mention complémentaire sommellerie. Et ce matin-là, enfin, c'est dans ces 24 heures-là, ma vie a changé. Et j'ai dit, banco. J'appelle mes parents, je fais, écoutez, en fait, je vais faire une année de plus. J'aimerais faire cette mention complémentaire sommellerie.
Pourquoi sommellerie et pas œnologie?
Eh bien, c'est une très bonne question, parce que souvent on confond sommellerie et œnologie. Alors, l'œnologie, c'est un diplôme qui demande une formation scientifique. C'est un diplôme, en fait, qui demande des bases de chimie, de biologie et de physique. Et pour intégrer un DNO, un diplôme national d'œnologie, il faut avoir une formation post...
Il faut sortir de maths sup et pas d'hypocagne.
Exactement. Et c'est vraiment une formation où on apprend la viticulture et la vinification dans un angle scientifique. Alors que la sommellerie, et ça c'est assez typique à la France, avait été séparée de l'œnologie, et la sommellerie fait partie du monde de la restauration et plus entre guillemets dans les sciences humaines, si vous voulez, d'une certaine manière, et sciences économiques et tout ça. Et mon idée, c'était pas de faire du vin, mais mon idée, c'était plutôt de servir et de goûter du vin de l'autre côté, avec la restauration, parce que j'étais fascinée par le côté anthropologique, ethnologique du restaurant. Hein. J'avais commencé à lire plein de choses sur l'ethnologie du restaurant, donc moi je voulais être un restaurant. Donc il me fait, il y a ça, et là, j'ai un passe-droit. Voilà. Parce qu'en fait, pour intégrer la mention complémentaire, il fallait avoir, et c'était professionnel en fait, c'était vraiment... Et moi, j'avais pas assez travaillé en restaurant, donc en fait, ils ont accepté de valider mon stage chez Potel et Chabot comme expérience professionnalisante, et j'ai intégré une mention complémentaire, on était 5, où j'ai fait une semaine de classe et 3 semaines d'apprentissage. Donc j'étais apprentie à 24 ans et 9 mois. Et donc c'était assez incroyable, parce que j'avais fait Hippocagne, Cagne, toutes les grandes études universitaires, et je découvre en fait vraiment la formation professionnelle. je me retrouve dans quelque chose où c'est du manuel, où c'est du professionnalisant, où moi j'arrive avec mes toutes grandes études universitaires en pensant que j'ai tout compris au monde, et en fait, badaboum, j'étais incapable de porter un plateau, je connaissais pas, enfin il y avait tout le côté intuitif, manuel, sensoriel, humain, en fait je l'avais pas. J'avais voulu l'avoir en allant au lycée hôtelier, mais on m'avait dit non, il faut continuer les études universitaires, donc je m'étais retrouvée en DESS à faire de la gestion comptable, marketing, tout ce que vous voulez, refaire des dissertations, enfin de l'universitaire. Mais vous me donniez quelque chose dans mes mains, j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec mes mains. Et là, je me retrouve dans cette formation, je la découvre, j'avais une idée que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, mais j'ai gagné un respect fondamental pour ces écoles et ces centres de formation où pour vraiment, vous apprenez une autre façon d'être au monde, de voir le monde, de comprendre le monde. Et là, comme vous voyez mon CV et que je l'envoie dans des restaurants pour devenir apprentie sommelière, je me prends plein de refus, en fait. Parce que les gens, pourquoi vous embauchez? Vous savez pas, vous devriez retourner à l'université, c'est pas fait pour vous. J'ai des refus, j'ai une femme qui me dit non, vous êtes une girouette, je vous prendrai pas dans mon restaurant. Et j'envoie un CV un peu par hasard sur les conseils de Patrick à ce restaurateur en Bretagne, Jacques Torel, à l'Auberge Bretonne, et lui, il me rappelle, il me dit « Venez me voir, on va parler, je ne vous garantis pas que je vous prenne, mais venez me voir. »
Et là, je laisse en suspens, parce que l'expérience du restaurant, on en parlera dans l'épisode suivant, ce qui fait un bon teasing à chaque fois. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête un temps avec vous, Pascaline Lepelletier, sur le goût, sur cet art de la dégustation qui fait partie intégrante de votre métier. Et c'est aussi ce qui vous a mis le pied à l'étrier dans cet art de la sommellerie, le goût. Et c'est aussi ce qui vous travaille aujourd'hui et ce sur quoi vous travaillez beaucoup. C'est quoi déguster?
Alors déguster, tout le monde déguste, hein. Sans doute rarement, mais tout le monde le fait de temps en temps lorsqu'on paie subitement attention à ce que vous mangez et à ce que vous buvez. Généralement, en fait, quand vous consommez un aliment ou une boisson, vous le faites de manière hédoniste. C'est-à-dire que c'est surtout j'aime, j'aime pas. Mais parfois, on vous dit, tiens, c'est quelque chose d'un peu différent. Et subitement, vous portez votre attention sur ce qui se passe en bouche et même au niveau de l'odorat. Et ça, cette expérience de la dégustation, en fait, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. On le fait pour l'œil, on éduque à regarder les formes, les structures d'une peinture, on le fait pour la musique par exemple. Quand vous écoutez, même à l'école, on a des cours de musique, on vous apprend un petit peu, y a des rythmes, il y a des tonalités, vous apprenez un petit peu à écouter. Donc parfois vous écoutez une musique comme cela, mais parfois vous arrêtez et vous dites « Ah, pourquoi est-ce que j'aime ça ?»« Ah, j'aime bien ça, cette basse, ou alors ce contrepoint. » Et faut vous dire que c'est la même chose pour le goût. Et on ne le fait pas. Donc il a fallu que j'apprenne à déguster. Et déguster, ça veut tout simplement faire attention à toutes les sensations sensorielles que vous avez lorsque vous mettez quelque chose en bouche. Et le vin a été le premier aliment, on le sait de la part d'historiens, qui a été décrypté, décomposé, et dont on a commencé à parler de manière un petit peu analytique, c'est-à-dire par les éléments constituants. Donc il a fallu que j'apprenne cela à goûter. Et par chance, en fait, le vin a développé maintenant depuis très longtemps des grilles de dégustation. Vous apprenez à reconnaître ces sensations, à les discriminer et après à pouvoir les énoncer. Donc au départ, c'est juste de la reconnaissance et après, on va vous apprendre à le mettre en bouche et à savoir faire attention à deux paramètres fondamentaux, cette prolongation des arômes et les saveurs que vous avez en bouche, c'est-à-dire les composés aromatiques qui vont se transformer dans votre palais et que vous allez pouvoir ressentir en rétro-olfaction, et vraiment le côté saveur, c'est-à-dire l'acide, l'amer, le sucre, le salé, aujourd'hui l'umami, la sensation de gaz, la sensation d'alcool, et on va vous apprendre tout simplement à reconnaître cela dans un vin.
Mais comme vous travaillez aussi en sommellerie à bien faire des bons accords entre les mets et les boissons, ça veut dire aussi que vous apprenez à goûter des solides, des aliments, j'imagine, Pascaline Lepelletier.
Oui, absolument. Alors les chefs aussi ont développé des analyses au niveau des aliments. La sommellerie, je pense, va encore plus loin parce que nous, il y a vraiment un travail discriminant sur les composés des plats. Et oui, absolument, on va commencer à apprendre à goûter les épices, à goûter tous les composés eux-mêmes, hein, les ingrédients. De toute façon, il faut qu'on les apprenne parce que le goût et le nez sont assez peu développés. Donc ce qu'on fait, on fait beaucoup en fait, de métaphores. quand on va sentir, par exemple, je sens la fraise dans un vin. En fait, vous sentez pas la fraise, vous sentez une multitude de composés aromatiques qui vous rappellent la fraise. Donc, il faut goûter les fraises. On va vous dire, oh, bah tiens, je sens un mélange d'épices, un peu de curry, de cumin, voilà. Donc, vous allez devoir sentir et goûter les épices. Donc, de toute façon, on est porté vers le solide pour beaucoup de choses parce qu'on fait énormément de métaphores, d'analogies. Et donc après, on va commencer avec ça, avec la cuisine. Et après, ça va être les synergies en bouche, ça va être les sauces, ça va être les préparations, ça va être les modes de cuisson. Quand vous faites un flambage, c'est pas comme vous faites quelque chose qui est bouilli ou quelque chose qui est grillé. Donc vous allez apprendre tous ces modes d'évolution des ingrédients. Plus vous apprenez les mâches, quand vous mâchez un ingrédient, quand vous consommez une soupe, c'est pas lorsque vous mâchez, je sais pas, une pièce de viande un petit peu mature, donc la relation avec la salive. Et subitement, vous découvrez cette biochimie de la dégustation, qui est quelque chose en fait aussi d'assez récent. Des scientifiques français l'ont travaillé depuis une trentaine d'années, mais ce sont des choses avant qui étaient vraiment très hédonistes et qui petit à petit ont été de plus en plus analysées. Aujourd'hui, voilà, on apprend à décomposer et à recomposer pour vraiment comprendre ces synergies.
Est-ce que vous vous servez aussi des livres historiques en gastronomie, par exemple, Bria Savarin et sa physiologie du goût? Aujourd'hui, il y a des philosophes qui s'intéressent aussi à, justement, j'ai intitulé cet épisode Petite philosophie du goût, bien entendu par rapport à vous, Pascaline Le Pelletier, mais aussi parce qu'il y a des philosophes qui écrivent sur la théorie ou les théories du goût. Comment vous vous situez par rapport à ça?
Oui, ben en fait, le goût a été un des sens qui a été très mal aimé en Occident, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de recherche, d'un point de vue esthétique. Les philosophes, et ce depuis très longtemps, ont discriminé ce sens parce que c'était un sens qui ne permettait pas d'accès, par exemple, à la beauté ou à l'absolu. Donc le goût par rapport à la vue, par rapport à l'audition, par rapport au toucher, a été minoré, de même que l'olfaction. Et donc, en fait, c'est relativement récent d'avoir des gens qui vraiment s'y intéressent de manière posée, positive. Bria Savarin, vous l'avez nommé, a été un des premiers à vraiment faire un travail d'écrit et de valorisation du goût. Il y a eu quelques personnes avant, comme Hume, dans la philosophie. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est important. Il y a une explosion, depuis maintenant quelques années, du respect pour le goût, de la compréhension du goût, que ce soit dans les sciences dures ou les sciences humaines, en analyse sensorielle, en neurosciences, sur l'esthétique du goût. Moi, je pense que je me situe dans la phase pratique. C'est-à-dire que moi, je travaille avec mon goût au quotidien. Je dois développer mon goût, je dois comprendre comment je goûte, quels sont les paramètres physiologiques, émotionnels, intuitifs, rationnels qui modifient mon goût. Et moi, mon travail, c'est que les gens au restaurant prennent plaisir avec leur goût.
Donc, il faut... Et pourtant, ils n'ont pas le même goût que vous.
Et pourtant, ils n'ont pas le même goût que moi. Donc, comment est-ce qu'on partage? Comment est-ce qu'on comprend où la personne a envie d'aller avec son goût? Parce que le restaurant, en fait, c'est un lieu du goût. Pour moi, il y a deux types de restaurants. Il y a des restaurants où on va juste ingérer des calories, et on a des restaurants où on y va pour une expérience de plaisir, multisensorielle, sociale, vraiment de restauration. Quand on va dans certains restaurants, c'est pour se restaurer au sens physiologique, mais aussi au sens humain, avoir un moment avec une expérience un peu dans une bulle, où on sort un peu de son contexte, pour se sentir bien. Donc moi, je travaille dans ce second type de restaurant, et mon travail, c'est que les gens se sentent bien en mangeant et en buvant. Et ça passe pour certains, par une expérience peu intrusive au niveau de ce qu'ils aiment en termes de goût, mais pour d'autres, ça passe avec une expérience extrêmement forte où ils vont me demander, est-ce que je peux goûter quelque chose que je ne connais pas, ou comment est-ce qu'aujourd'hui je peux découvrir, ou comment est-ce que tu peux me faire plaisir à quelque chose que je ne connais pas. Donc il faut que j'arrive à me projeter sur le potentiel du goût des autres, sur la zone d'expérience ou de plaisir du goût de mon interlocuteur. Et pour ça, pour comprendre ça aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il fallait que je m'inspire des travaux d'une multiplicité de corps d'études. Et je suis vraiment, je pense, à la croisée pratique de la recherche des neurosciences, de la physiologie, de la nutrition, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'histoire, pour essayer de l'esthétique, de l'artiste, pour essayer de synthétiser ça, de comprendre ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, dans nos émotions, en fonction de nos cultures, et essayer de faire en sorte que moi je puisse interpréter ce que mon client me dit pour essayer de lui donner cette expérience de goût et de plaisir que j'ai pu avoir avec la bouteille d'Ikem. Parce que ça a été une révélation pour
même
moi.
Même si ce n'est pas toujours des Ikem.
même si c'est pas toujours des IQM.
Il n'y a pas toujours les moyens.
Il n'y a pas toujours les moyens. Et ça a été cette bouteille-là parce que je pense que c'est comme la première fois que vous écoutez la toccata de Bach ou quelque. Moi, j'ai eu la chance de voir avec une espèce de chef-d'œuvre, mais vous pouvez avoir cette sensation parfois juste avec une mélodie qui subitement vous fait découvrir le sens de l'ouïe, vous dites, mais la musique, mais mon Dieu, où est-ce que c'était toute ma vie? Et subitement, vous avez ce moment incroyable de ressenti, ça peut être quelque chose de très simple, mais vous dites, mais j'ai jamais vu le monde de cette manière-là, ou goûté le monde de cette manière-là. Et moi, mon boulot au restaurant, c'est à des échelles peut-être d'intensité, pas aussi exacerbées, mais de faire ressentir aux gens la puissance interne, le plaisir interne qu'ils ont grâce au goût de dévorer le monde. Et ça, c'est mon travail. Et pour essayer de comprendre comment ça marche, avec mon client, mais après pour l'enseigner, parce que ce qui m'importe, c'est que moi je le comprenne, mais c'est que mes équipes le comprennent, que mes étudiants le comprennent. Comment est-ce qu'on peut l'enseigner? Comment est-ce que je peux enseigner ça à mes équipes et qu'on fasse une nouvelle forme d'introduction au goût aux nouvelles générations de professionnels de la restauration? Alors c'est un petit peu, voilà, on fait un grand écart, mais et pour le faire, ben, il faut que je comprenne ce qui se passe en moi, et que j'arrive à voir ce que mes ressentis ne soient pas juste des choses individuelles de mon expérience personnelle, mais que ce soit des choses qui peuvent être universalisables, donc ce sont des choses qui peuvent être étudiées, comprises par d'autres personnes, et me disent effectivement là-dessus il y a une possibilité de transmission, parce que ce que tu ressens c'est quelque chose qui peut être aussi enseigné, qui peut être appris par d'autres.
On va parler de cette transmission et de l'enseignement aujourd'hui, parce qu'il y a sans doute une évolution des goûts, bien entendu. Entre le goût dans l'Antiquité et le goût au XXIe siècle, les choses ont changé nécessairement. Mais je voudrais vous poser une question géographique, parce que vous avez beaucoup voyagé, nécessairement aussi pour votre travail et pour comprendre ce qui se passe. Vous avez goûté énormément de boissons différentes, vous nous le disiez dans le premier épisode. Vous vous êtes formé aussi aux boissons du monde entier. Est-ce que vous diriez que le goût est le même partout, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une standardisation du goût? Ou est-ce que quand même vous constatez une géographie du goût encore très différente selon les pays et les cultures dans lesquels vous avez voyagé?
Alors, en fait, le goût est intrinsèquement individuel. Votre goût n'est pas mon goût, dans une dimension hédonique. Et donc, à plus grande échelle, on peut se dire qu'autant autant de personnes que de goûts. Après, ce que l'on voit, c'est cette capacité émotionnelle à ressentir des choses. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un universel. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que chacun de nous, par la complexité physiologique, neuronale, émotionnelle que nous avons, on peut expérimenter des sensations absolument incroyables. Certaines vont nous plaire, d'autres vont moins nous plaire, mais on est tous capables de le faire. Et d'avoir ce plaisir incroyable. Et donc ce goût-là, pour moi, il est universel. Par contre, malheureusement aujourd'hui, avec l'évolution de l'alimentation, et qui est internationale aujourd'hui, avec cet épandage de produits ultra industrialisés, ce qu'on appelle les ultra processed food.
Ultra transformés,
je m'excuse. Eh bien, ce que je peux voir, c'est que ces produits-là et cette alimentation-là nous fait presque devenir aveugles à notre sens du goût. C'est-à-dire que ça nous sursature en sucre, nous sursature en certaines intensités, en sel. Et au final, c'est un peu comme si on nous mettait des œillères. On n'arrive plus qu'à goûter des produits très gras, très sucrés, très salés. Et on devient presque allergique à de l'acide, à de la mer, et on n'est plus capable de ressentir ces différences. Et c'est ce qu'on est en train de voir à l'international. C'est-à-dire que dans mes voyages, je vous ai raconté que j'avais été au Pérou, je me retrouve dans cette petite ville de la jungle péruvienne qui s'appelle Villa Rica. Vous allez dans le commerce local et c'est que des grandes marques ultra-industrielles de produits que je ne vais pas nommer qui se retrouvent là. Et quasiment pas de produits locaux. Et la formation du goût va passer par là. Donc effectivement, les gens ne vont plus aimer du tout les nuances de certains fruits, légumes. Et donc, c'est là aujourd'hui qu'il y a une problématique, en fait. Il y a une chance incroyable d'avoir cette individualité, cette sensation personnelle d'un goût qu'on va aimer ou qu'on ne va pas aimer. Et il faut se battre pour ça. Il faut en fait se battre pour cette individualité forte et unique de ce que l'on peut aimer écouter. Par contre, on est dans une standardisation des outils du goût, et c'est ça qu'il va falloir contre lequel il faut qu'on se batte.
Peut-être par l'éducation au goût, qui devrait d'ailleurs être une vraie matière à l'école, mais aussi vous qui enseignez, Pascaline Le Pelletier, justement dans cette transmission, le travail doit être difficile aujourd'hui, malgré tout, parce que vous enseignez à des plus jeunes générations qui ont quand même grandi dans ce monde où la standardisation des goûts a pris le dessus. Donc, est-ce que vous arrivez encore à transmettre cette façon-là d'apprécier, cette façon-là de goûter, ou est-ce que vous constatez un fossé entre vous et les jeunes générations d'apprentis sommeliers aujourd'hui ?
Non, il faut apprendre. En fait, il faut désapprendre. Il faut désapprendre. C'est-à-dire que physiologiquement et émotionnellement, on a toujours la capacité. Donc, il va juste falloir désapprendre
pour
réapprendre. Et c'est là que le vin est incroyable. Pourquoi est-ce que le vin est au centre de toute cette théorie de la dégustation ? C'est tout simplement parce que le vin, c'est un des produits, en termes de composés chimiques, les plus complexes, les plus incroyables, en termes de diversité, en termes de possibilité de ressentir toutes ces nuances. Et c'est là qu'en désapprenant, en repassant au niveau des bases, en refaisant goûter, un petit peu comme vous réapprenez une langue ou un alphabet, on repart à la base, on refait goûter, on resensibilise, on éduque petit à petit par vraiment les fondamentaux, mais le vin a une place fondamentale à jouer, tout simplement parce qu'une fois que vous avez commencé à réapprendre ce langage, que vous commencez à goûter le vin, de par son incroyable composition chimique, vous pouvez subitement redécouvrir que vous avez une sensibilité aux nuances exceptionnelles, et un plaisir en plus.
Et je précise que dans l'art de la dégustation, en particulier du vin, on crache, on n'avale pas tout, parce que là, l'idée n'est pas de boire du vin. Même vous, par exemple, vous pratiquez des gammes, c'est comme ça que vous dites, je crois. Vous dégustez entre 60 et 70 vins différents par jour. Vous n'avalez pas.
Oui, non, absolument. Non, c'est une nuance à faire absolument importante. C'est-à-dire que dans la pratique qu'on énonce, tout se passe en fait au niveau du palais à 99%. On n'a pas besoin de boire. L'alcool est un support aromatique et effectivement, c'est une pratique où on crache, où on fait extrêmement attention à cette consommation. On sait la dangerosité de l'alcool. Et donc, non, les professionnels du vin et ceux que je forme, on est extrêmement clairs par rapport à cela. Et il faut vraiment apprendre. Et c'est vraiment en plus une physiologie. C'est très facile à faire une fois que vous le savez. Comment travailler la salivation, le grumage du vin dans le palais, et après, évidemment, on crache. Autrement, c'est impossible. De toute façon, au bout de deux vins, vous ne pouvez plus distinguer deux choses. Et après, en termes de santé, évidemment, ce n'est absolument pas ce que nous faisons.
Vous vous référez, Pascaline Le Pelletier, à un œnologue, Jacques Puiset, qui parle du goût juste des choses.
Ah oui, bah Jacques Puiset, il faudrait qu'on lui dédie école, prix, rue. C'était un œnologue incroyable qui a exercé beaucoup dans la région ligérienne et qui a créé l'Institut du goût. C'était quelqu'un qui défendait l'apprentissage du goût à l'école pour les enfants. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas le goût aux enfants à l'école. Parce que c'est la dernière porte d'entrée du monde en vous. Vraiment, c'est l'ingestion de ce que vous allez avoir. Et beaucoup de problèmes aujourd'hui de santé, de problèmes, mais même plus largement de curiosité, pourraient être sans doute nuancés, amoindris, par cet apprentissage du goût à l'école aux enfants.
Et bien maintenant, nous, on va voir comment cet art de la dégustation, vous le pratiquez dans votre métier quotidien, c'est-à-dire au restaurant. Pascaline Le Pelletier, merci pour cet épisode 3.
Merci.
Rendez-vous à l'épisode 4, l'expérience du restaurant.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Pascaline Le Pelletier. Réalisation Yvon Croisier, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.